interview va tourner, pour ainsi dire, autour d'une citation de Herb Buckminster Fuller, un architecte américain. Donc je vais vous la jouer en français et vous amusera à taper sur Google pour voir ce que ça donne en anglais. Ceux qui jouent avec les jouets du diable seront amenés peu à peu à manier son épée. Alors j'ai trouvé que ça correspondait parfaitement au personnage d'Elric de Manly Bonnet. La première question, pour ainsi dire, par rapport à vous, Michael Markop, qu'effectivement vous n'avez pas besoin d'introduction et votre héros non plus, c'est autour du personnage. Je sais que vous détestez les étiquettes, donc je ne vais pas vous dire que vous avez écrit un chef-d'œuvre d'Elric Fantasy, mais j'aimerais que vous réagissiez plutôt à ce fait-là. Pour moi, vous avez écrit une tragédie. Une tragédie antique, avec un personnage qui se débat face à une malédiction, ou lui parler Dieu, qui va essayer de la combattre, et qui finira par y succomber. Est-ce que c'est le cas?
Following the quote from Fuller, this is the beginning of the question. It is very close to what he feels about Elric, because from his point of view, Elric is a tragedy, an antique tragedy, mm-hmm. and so he feels that the quote is very close to what his view is on Elric. Can you comment, please?
Yeah, I'm a great admirer of Buckminster Fuller anyway. I completely agree. I mean, that's essentially the moral of the story.
Je suis un grand amateur de Fuller et je suis tout à fait d'accord avec cette citation parce que c'est effectivement la morale de mon histoire. De l'histoire.
Alors, l'autre détail, pour ainsi dire, qui m'intéressait, c'est tout le contexte. Quand vous avez écrit Elric, dans les années 70, vous avez créé un anti-héros dans un cadre, je dirais vraiment entre guillemets, d'Heroic Fantasy, empereur d'un empire moribond, qui fait songer à la fois, quand on regarde Manly Bonnet, à une cité-état grecque, comme Athènes, un empire romain, une ville comme Tenochtitlan, et en même temps, dans votre cas tout particulièrement, on songe à Londres. Une espèce de, je dirais, qui réussit à avoir tout ça en un seul site, une cité-état créatrice d'un empire et en même temps, j'allais dire, source de nombreuses mythologies, surtout celtes.
What he's interested in is the context. When you created Elric at the end of the 70s, maybe you had a lot of references to dying civilizations. So it could have been Tenochtitlan in Mexico. It could have been the Greek or the Roman Empire. And of course, in your case, the British Empire. Yeah. And so could you comment on that and tell us what you thought at the time?
Yes, I was deliberately echoing the end of the British Empire. It wasn't really any other empire, just the British Empire. I think it was actually the end of the 50s when I conceived Elric, and that was a time of considerable upheaval in both in France and in England over colonial giving up colonies, and so yes, I mean that was central to what I was thinking about. I was a very political person. I still am a very political person, and so I was thinking a great deal about. Exactly that, and the implications. So.
Quand j'ai conçu Elric, c'était en fait à la fin dans les années 50, et effectivement c'était un moment de pleine révolution, de fin des empires coloniaux, que ce soit en France ou en Angleterre, et effectivement c'était très très présent à mon esprit. Et j'étais une personne politique à l'époque, je le suis toujours, et donc forcément, oui, ça a absolument guidé mon écriture.
D'accord. Et en fait, on peut dire aussi que vous jouez énormément avec la structure du conte. Et dire pareil, là vraiment, en mettant des gros guillemets, on la pervertissant, parce qu'on tombe sur il est amoureux de sa cousine, il se bat contre son frère, il essaye de ressusciter, pour ainsi dire, son empire, en jouant avec des forces qu'il dépasse, c'est-à-dire là, le chaos. Et au final, j'allais dire, lui, en tant qu'être humain, va être complètement broyé par des forces qu'il dépasse.
You, in terms of structure, you play and subvert fairy tales, since there's the whole thing with his sister, there's the fact that he's fighting forces of evil, chaos, and which actually will end up crushing him or almost. The fact that he's an anti-hero as well. Am I forgetting something? No? Okay. That's about it. So was that important to actually subvert the fairy tale genre?
I wouldn't say fairy tale as such, because that would be, for me, that's La Fontaine or somebody like that. I mean, that's more a fairy tale for me. But a folk tale, which probably is what we're talking about, is something I was very strongly influenced by. I read a great deal of folklore and mythology. Yes. So you know, the Norse, Celtic,
yes,
and as I've said before, for some reason, Indian. I just got really interested in Sanskrit literature and started reading. It turned out a great deal of the Sanskrit literature that I read proved to be a 19th century fake. But I didn't know that, so I was strongly influenced by this 19th century fake. Which just told a lot of the Indian stories. They just extended stories that already existed. But anyway.
Effectivement, quand on parle de contes, c'est pas de contes de fées, mais c'est bien bel et bien de contes et de folklore populaire dont je me suis inspiré, que ce soit les légendes celtiques, tout ce qui est mythologique, et notamment la mythologie indienne, le sanskrit, même si à l'époque, tout ce que j'avais lu en termes de littérature sanskrite à l'époque était en fait une sorte de version expurgée qui était fausse. Mais néanmoins, j'ai rassemblé toutes ces bases de légendes et je les ai utilisées.
D'accord. Alors, ma dernière question, et ça va me permettre justement de faire un passage, Elric est l'une des incarnations du guerrier éternel. Alors, c'est assez rigolo parce qu'à côté, vous avez le Hank Moon, donc par rapport à... J'ai un trou de mémoire, je suis en train de penser au Duc d'Arran, mais ça n'a rien à voir. Mais par rapport à une autre facette du personnage, vous avez Récosé. Comment expliquez-vous finalement qu'Elric est devenu, entre guillemets, le principal représentant de la figure du guerrier éternel, au point d'éclipser finalement ses autres incarnations?
Elric is the eternal warrior, the most most celebrated figure of the eternal warrior. Why did he actually seem to take the upper hand on your other characters of eternal warriors?
Because he's myself.
Parce qu'il est moi-même.
Oui, non,
okay.
Really.
Okay.
Alors, vous, à votre niveau, j'imagine que en tant qu'auteur, en tant que scénariste, en tant que BDAs, vous avez forcément bidouillé du jeu de rôle, vous avez forcément lu l'œuvre, et là, il y en a un qui va répondre non, juste histoire de foutre son bordel. Comment, justement, quel poids ça fait de se dire, d'un coup d'un seul, on va faire finalement une adaptation? Comment on passe d'une œuvre finalement écrite à une œuvre visuelle? Quel travail tout d'abord ça nécessite? Ça va faire combien de temps que vous êtes dessus? Quelle technique vous utilisez? Et au final, j'ai l'impression que votre œuvre a réussi à faire, un peu comme Ouroboros, le serpent qui dévore la queue, vous avez fait découvrir un personnage à une nouvelle génération d'acteurs qui, du coup, ont découvert l'œuvre, le livre. Et je dirais que l'œuvre a l'air d'avoir aussi été énormément acceptée par ceux qui, au début, ne juraient que par le livre.
Wow. Je peux avoir une traduction?
Non, dans l'ordre, ça va faire combien de temps que vous bossez là-dessus?
Alors, commencement du rock'n'roll, c'est Didier qui est là-bas, qui discutait avec Benoît en disant « Tiens, on se ferait bien, Elric, en France, quoi, à la française, un vrai truc et tout ». Et ça a fait son chemin, et les droits ont été récupérés par Glénat, il y a un projet qui s'est monté, et si on faisait une relecture d'Elric à la française en BD. Et à partir de ce moment-là, c'était que du bonheur, en fait. Enfin, tu parlais de poids, le vrai poids, je pense qu'on a eu, enfin, je sais pas pour mes camarades, mais on en a discuté avec Didier et avec Robin, le poids qu'on avait, c'était d'être fidèle à ce qu'on avait ressenti en lisant les bouquins quand on avait 15 ans, plus que de trahir ou pas l'œuvre, ou de trahir ou pas les fans. On savait qu'on était capable de faire quelque chose de cohérent. Bon, je sais pas, mais cohérent. On pouvait venir avec une vision en disant voilà pourquoi on verrait Elric comme ça en BD, parce que la BD c'est pas comme le roman, c'est pas comme le cinéma, faut faire des choix, le rythme il est pas pareil, et on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de correct, quoi. Et le vrai poids, en tout cas pour moi, c'était de pas trahir ce que j'avais ressenti en le lisant, pour que même si l'histoire est différente, même si le look est différent, à la fin on se dise waouh, ce personnage il m'a fait ressentir ça. La vraie difficulté, c'était ça. C'est comme tu vas attaquer un album en musique, une tournée de concert ou n'importe quoi. Tu te dis, est-ce que je vais tenir l'énergie sur la longueur? Est-ce que je démarre avec une vraie envie, mais est-ce que je vais la tenir? La base de la BD, c'était de s'attaquer à un truc qui était très très gros et de réussir à en délivrer une vision qui correspondait à ce que ça nous avait, nous, à faire sentir 20 ans, 25 ans plus tôt.
Ouais, c'est vrai que visuellement, à chaque fois qu'on feuillette les albums, il y a toujours... Moi, c'est ça. C'est telle scène, on se dit c'est évident. Tel autre truc, c'est ça coupe de source.
Ça fait super plaisir parce qu'on a pris des libertés à tous les niveaux, y compris et en premier lieu graphique. Et on est content que les gens, même s'ils sentent bien qu'il y a des différences, retrouvent le plaisir ou juste l'impression qu'ils ont eu.
À ce niveau-là, de toute façon, vous avez un très bon défenseur dans la préface du tome 2 qui est Alan Moore. Qui rappelle pour ainsi dire la totalité, la genèse du personnage et ses nombreuses adaptations en BD, pour terminer par la vôtre en déclarant qu'à ses yeux c'est la meilleure qu'il ait jamais eue. Alors, j'allais dire de la part du vieux sorcier nordique
terré en Angleterre, ça me fait moins plaisir que celle de Michael dans le tome 1 qui nous dit c'est bien. Ça fait plaisir.
Alors au niveau du boulot que ça représente, c'est comment? C'est à la main? J'imagine qu'il y a aussi énormément d'ordinateurs.
Alors, nous, en termes de scénario, le vrai travail, c'est donc du coup, de travailler ensemble avec Julien, de prendre le matériau original, qui sont donc évidemment les romans, de les lire et de se dire, dans ce tome-là, on utilise ça. Parce que dans le tome d'avant, on est parti là-dessus, le tome d'après, on utilise ça. Enfin, c'est de choisir qu'est-ce qu'on va raconter par rapport au matériau original. Et ensuite, c'est de l'adapter par rapport à la vision que nous avons du premier cycle de 4 tomes. Donc voilà, le premier cycle de la X, c'est 1, 2, 3, 4. On sait comment on a commencé, on sait où on va finir. Et du coup, c'est de dire, pour être cohérent avec la progression qu'on veut d'Elric dans ces 4 tomes-là, qu'est-ce qu'on met dans le tome 2, qu'est-ce qu'on met dans le tome 3, qu'est-ce qu'on met dans le tome 4. D'où l'omission notamment de Rakir dans le tome 2. Parce qu'on disait, il apparaît dans la nouvelle qu'on adapte, mais il apparaît tellement succinctement qu'on n'a pas le temps de s'attacher à lui, et il revient tellement tard dans les romans qu'on a choisi de ne pas le mettre dans le tome 2. Par exemple. Donc, du coup, c'est faire des choix. Une fois qu'on a fait le choix de ce qu'on va raconter dans le tome, on le découpe ensemble, scène par scène, on se partage les choses, on fait beaucoup de ping-pong, et ensuite ça part dans les mains des dessinateurs, donc Julien, Robin, et storyboard, tout ça. Voilà. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Et vraiment, on s'appelle, si on ne s'appelle pas 3 fois par semaine, c'est qu'on ne s'appelle pas. Donc ça prend du temps, ça prend... Il y a, effectivement, tu parlais tout à l'heure de responsabilité, on est responsable de l'adaptation de quelque chose qui nous dépasse, qui est énorme. Donc du coup, on ne peut pas se rater. Donc malgré tout, on remet beaucoup en question nos choix, on se dit, est-ce qu'on fait des bons choix? Est-ce que là, pour l'instant, on n'a pas trop mis à côté, c'est bien, on a des réponses hyper positives, des questionnements de fans qui sont légitimes parce que c'est une adaptation, donc forcément... C'est notre vision, la vision de l'équipe, la vision autant graphique que scénaristique. Maintenant, on est capable de les défendre. Parce que c'est ce que nous avons ressenti, comme disait très bien Julien, c'est ce que nous avons ressenti en lisant les BD, en lisant les romans, ce qu'on a envie de transmettre. Voilà, c'est. Je pense que toute personne qui a adoré un bouquin et qui le voit adapté en film, dit, je voyais pas ça comme ça, le cast il est pourri. Ou... Mais c'est quand même la vision de quelqu'un. Donc là, c'est la vision d'une équipe de 5 personnes qui l'assume totalement.
D'accord, voilà. Alors, vu que les albums ont l'air de suivre, c'est un par an finalement, quasiment.
Ouais, c'est un par an parce qu'il faut bien un an pour le faire. Ouais. Le premier, il a fallu 2 ans entre le moment où le projet a commencé, les recherches, les discussions sur qu'est-ce qu'on va adapter, comment, à quoi ça va ressembler, quel style, etc. Le deuxième, il nous a fallu un an pour le faire, pour le réaliser. Et on va essayer, comme on s'était promis pour le tome 2, de rester sur un an maximum par album. Déjà pour nous c'est bien, pour tout le monde, et pour les lecteurs c'est pas trop frustrant, mais plus vite ce serait plus dur, je pense.
Voilà, on est déjà sur le tome 3, on a commencé, on sait où on va, on sait où on va déjà, enfin, jusqu'à la fin du 4 on est carré, voilà, on sait où on va. Maintenant c'est que des petites pétouilles, genre est-ce qu'on met ça là, est-ce qu'on met ça plutôt sur le 4, est-ce qu'on met ça plutôt sur... Mais voilà, en gros on sait où on va, quoi. Et graphiquement du coup... C'est Julien qui s'occupe de Julien et Romain et Didier pour le 2.
Alors, il y a deux trois trucs qui m'ont marqué d'un point de vue visuel. Déjà, il y a la façon dont vous voyez le démon Arioch. On a l'impression de retomber, j'allais dire, sur des visions très, à la Milton, à Paradis perdu. Le diable tentateur, le diable finalement qui tente, ou comme on dit, le diable suggère, l'homme dispose hein, finalement, et qui est très très bien retranscrit justement dans la scène de combat finale. Où justement sa création entre guillemets se retourne contre lui. Comment on fait finalement? Comment c'est venu pour vous l'idée justement du, j'allais dire en étant cynique, le gentil gamin très souriant qui est capable de sacrifier finalement un univers entier juste parce que c'est le mardi qui s'est levé du mauvais pied?
Arioch, enfant, il est présent dans les romans. Mm-hmm. Et ça a été le choix dès le départ, dès le tome 1 en fait, en ce qui me concerne, on est arrivé sur le tome 2, ça a été la continuité de la droite, continuité, mais après la genèse justement, pourquoi cette version-là plutôt que le crapaud, plutôt que...
Ouais, Arioch il est décrit dans les nouvelles, et il prend plusieurs formes en fonction de où il intervient et pourquoi, quand il va se battre contre les seigneurs de la loi, il a plutôt une grosse armure et une hache double, quand il intervient sur certains mondes, il est laid. Après nous ce qu'on voulait montrer c'est que c'est le seul seigneur du chaos qui est vraiment intéressé par le côté humain des jeunes royaumes. Les Méniboneas ne sont pas humains, mais ils ont un côté mortel, en fait, quoi. Donc il ne va pas prendre une apparence monstrueuse pour se rapprocher de gens qui ont des émotions, il va prendre une apparence humanoïde la plus possible, quoi. Donc on est parti sur l'enfant. Puis ben, l'enfant, c'est des thématiques qu'on a dans l'équipe, quoi. Enfin, ça rappelle... Non, mais c'est vrai, enfin, l'enfant, ça rappelle des choses... plus, peut-être plus japonaise, plus manga, c'est un peu plus dérangeant, c'est aussi le critère de beauté grec-romain, c'est le petit blond avec les cheveux, le corps parfait, c'est le côté un peu gênant d'un enfant puissant.
C'est vrai qu'on a l'impression de voir un peu un dieu.
Pour nous, c'était plutôt l'icône de l'enfant, seigneur du chaos, ça marche bien, quoi. Et puis, vu qu'elle existe, autant prendre la version originale d'Arioch, qui correspond mieux à notre histoire.
Bon, on pourrait continuer pendant des heures et des heures, mais hélas, le temps nous est compté. J'allais dire, le mot de la fin vous appartient, donc faites-vous plaisir, dites ce qui vous passe par la tête.
Eh oui, c'est la question que j'ai rien dit jusqu'à présent. Je ne sais pas par où commencer.
Commencer par le mot du
début. C'est vrai que ce deuxième tome, pour moi, c'était en fait la l'aune des défis. C'est arrivé derrière un dessinateur qui est accompli, qui a déjà fait beaucoup de choses et qui du coup, voilà, enfin, il a son style et j'avais le mien, et essayer de justement pas trahir ce premier tome qui était si particulier et qui avait plu à de nombreuses personnes. Et puis d'un autre point de vue, en fait, c'était aussi m'affirmer moi en tant qu'auteur avec ma vision de fan d'Elric et puis voilà, enfin exprimer ce que j'avais ressenti à la lecture des romans et donc forcément on n'a pas forcément la même culture en fait, parce que je suis le plus jeune dans l'équipe et on a des références différentes, Robin, Julien, Jean-Luc, voilà, on a grandi avec plein de choses différentes et du coup, ce que j'essaye d'apporter c'est une espèce de jeunesse, une fraîcheur, enfin humblement mais bien entendu.
En vieux croix avec qui je bosse.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que Robin a des...
J'aime bien cette fois.
Non, mais c'est vrai que Robin a des références américaines et moi pas du tout, enfin très peu en fait finalement et c'est vrai que c'est le mélange. Non, pas forcément. Bah, je suis pas forcément manga, hein, mais j'ai grandi enfin avec la naissance du manga, Akira, Dragon Ball Z. Enfin, j'ai grandi, c'était mon époque. Et c'est vrai qu'il y a plein de notions que j'ai intégrées sur cet univers-là et que j'essaye de nourrir en fait les autres avec.
Alors pour moi, le mot de la fin, c'est un remerciement que je fais et que je refais encore à Julien Blondel, qui m'a amené sur cette aventure sur le tome 2, parce que travailler sur Elric c'est une chance, c'est une Madeleine de Proust, parce que j'ai découvert ça à 11 ans, ça m'a complètement bouleversé, ça a marqué plein de choses pour moi, et le fait de pouvoir travailler dessus aujourd'hui, d'avoir une bande dessinée avec Michael qui est derrière, qui nous adoube en disant c'est bien ce que vous faites les gars, j'adore. Enfin voilà, ça vient de toi mec. Donc pour moi le mot de la fin c'est vraiment ça reste un bonheur de bosser sur Elric et que ça continue quoi.
Ah, cool. Moi j'ai rien de génial à rajouter à ça. Enfin on a une chouette équipe, on prend beaucoup de plaisir à faire ce projet. Les gens qu'on rencontre, qui l'ont lu, qui le lisent, sont gentils avec nous. Les journalistes sont gentils avec nous. Les gens qui ont des bars, des restaurants sont gentils avec nous. Notre éditeur est gentil avec nous. Donc pour l'instant tout va bien quoi.
Bah écoutez, merci. À l'année prochaine du coup.
Merci.